Guccio, passant auprès, entendit ce dernier prononcer
« Et s'il ne meurt pas ?»«
Ce serait moindre mal, répondit l'un des Italiens, que de rester ici 6 mois encore, comme cela nous guette si nous perdons cette occasion d'élire un moribond. » Aussitôt, Guccio fit passer une lettre pour son oncle, où il lui suggérait de racheter à la compagnie des Bardi toutes les créances que cette banque possédait sur Jacques de Haize. «
Vous pourrez les obtenir sans peine à moitié de valeur,
car le débiteur est donné mourant, et le prêteur vous tiendra pour folle. Achetez, même à 80 livres pour le sang. L'affaire, je vous le dis, sera bonne, ou je ne suis plus votre neveu. » Il conseillait en outre à Ptolémée de venir lui-même à Lyon, au plus tôt qu'il le pourrait. Le 29 juillet, le comte de Forez fit officiellement remettre au cardinal Camerlingue une lettre du régent. Pour en entendre la lecture, Jacques de Haize consentit à quitter son grabat. Il se fit porter plus tôt qu'il ne marcha jusqu'à l'assemblée. La lettre du comte de Poitiers était sévère. Elle détaillait tous les manquements au règlement de Grégoire. Elle rappelait la promesse de démolir les toits de l'église, elle faisait honte aux cardinaux de leur discorde et leur suggérait, s'ils ne pouvaient arriver à une conclusion, de conférer la tiare au plus âgé d'entre eux. Or, le plus âgé était Jacques de Haize. Quand celui-ci entendit ces mots, il agita les mains d'un geste épuisé et murmura
« Le plus digne, mes frères, le plus digne! Qu'iriez-vous faire d'un pasteur qui n'a plus la force de se conduire lui-même et dont la place est plutôt au ciel, si le Seigneur veut bien l'y accueillir, qu'ici-bas ? »
Il se fit ramener dans sa cellule, s'étendit sur sa couche et se tourna vers le mur. Le surlendemain, de Haize parut retrouver un peu de force. Un affaiblissement trop constant eût éveillé les soupçons. Mais lorsque vint une recommandation du roi de Naples, qui étayait celle du comte de Poitiers, le vieillard se mit à tousser d'une manière pitoyable. Il fallait qu'il fût bien mal en point pour avoir pris froid par une si forte chaleur. Les marchandages continuaient fermes, car toutes les espérances n'étaient pas éteintes. Mais le comte de Forez commençait à se montrer plus rude. Maintenant, il ordonnait de fouiller ostensiblement les vivres, qu'il avait d'ailleurs réduit à un service par jour, et il confisquait la correspondance ou la faisait rejeter à l'intérieur. Le 5 août, Napoléon Orsini était parvenu à rallier à de Haize le terrible Caetani lui-même, ainsi que quelques membres du parti gascon. Les Provençaux flairèrent le parfum de la victoire. On s'aperçut le 6 août que Mgr de Haize pouvait compter sur 18 voix, c'est-à-dire 2 voix de plus que cette fameuse majorité absolue qu'en 2 ans et 3 mois, personne n'avait pu réunir. Les derniers adversaires, voyant alors que l'élection allait se faire malgré eux, et craignant qu'ils ne soient tenus rigueur de leur obstination, se donnèrent les gants de reconnaître les hautes vertus chrétiennes du cardinal évêque de Porto et se déclarèrent prêts à lui accorder leur suffrage. Le lendemain, 7 août 1316, on décida de voter. 4 scrutateurs furent désignés. De Haize apparut, porté par Guccio et son second damoiseau.
« Il ne pèse pas lourd !»
murmurait Guccio aux cardinaux, qui les regardaient passer et qui s'écartaient avec une déférence où se marquait déjà leur choix. Quelques minutes plus tard, de Haize était proclamé pape à l'unanimité, et ses 23 collègues lui faisaient une ovation.
« Puisque vous le voulez, Seigneur, puisque vous le voulez !»
souffla de Haize.
« De quel nom fais-tu choix ? » lui demanda-t-on.
« Jean, je porterai le nom de Jean. Jean 22. »
Guccio se leva pour aider à se lever le chétif vieillard devenu l'autorité suprême de l'univers.
« Non, mon fils, non, dit le nouveau pape. Je vais m'efforcer de marcher seul, puisse Dieu soutenir mes pas. »
Les imbéciles crurent alors voir s'opérer un miracle, tandis que les autres comprenaient qu'ils avaient été bernés. Ils pensaient avoir voté pour un cadavre et voilà que leur élu, fort aisément, circulait parmi eux, frétillant et frais comme une truite. Mais ils ne pouvaient encore imaginer combien il leur mènerait la vie dure pendant 18 années. Cependant, le camerlingue avait déjà brûlé dans la cheminée les papiers du vote, dont la fumée blanche annonçait au monde l'élection du pontife. Les coups de pioche, alors, commencèrent à retentir contre la maçonnerie qui murait le grand portail. Mais le comte de Forez était prudent. Dès qu'on eut dégagé assez de pierre, il se glissa lui-même dans l'embrasure.
« Oui, « Oui, mon fils, c'est bien moi, »
lui dit Duez, qui avait rapidement trottiné jusque-là. Alors, les maçons achevèrent d'abattre le mur, les deux vantaux furent ouverts, et le soleil, pour la première fois depuis 40 jours, pénétra dans l'église des Jacobins. Une foule nombreuse attendait sur le parvis, bourgeois et petites gens de Lyon, consuls, seigneurs, observateurs des cours étrangères, qui tous se pressèrent et s'agenouillèrent, tandis que cardinaux et conclavistes sortaient formés en procession. Un gros homme au teint olivâtre, qui se tenait au premier rang, auprès du comte de Forez, saisit le bord de la robe du nouveau pape, quand celui-ci passa devant lui et porta l'ourlet à ses lèvres. « Oncle Spinello !» s'écria Guccio Baglioni, qui marchait derrière le pontife.
« Ah, vous êtes l'oncle ! J'aime bien votre neveu, mon fils !» dit Duez,
au gros homme agenouillé, en lui faisant signe de se relever.
« Il m'a fidèlement servi, et je veux le garder auprès de moi. Embrassez-le, embrassez-le !»
Le capitaine général des Lombards se redressa, et Guccio l'étreignit.
« J'ai tout racheté, comme tu me l'avais dit, et à 6 pour 10 !»
souffla Tholoméi dans l'oreille de Guccio, pendant que Duez bénissait la foule.
« Ce pape nous doit maintenant quelques milliers de livres. Beau travail, mon garçon. Tu es le vrai neveu de mon sang. »
Quelqu'un derrière eux faisait aussi longue figure que les cardinaux. C'était le seigneur Boccas, principal voyageur des Bardis.
« Ah, tu étais donc à l'intérieur, mécréant !» dit-il à Guccio. « Si j'avais su cela, je n'aurais jamais vendu les créances. »«
Et Marie ? Où est Marie ?» demanda anxieusement Guccio à son oncle. « Ta Marie se porte bien, elle est aussi belle que tu as de malice, et si le petit Lombard qui lui enfle le ventre tient de vous deux, elle fera son chemin dans le monde. » Mais va vite, va, mon garçon, tu vois bien que le Saint-Père t'appelle. »